Bonjour. Je vais prier. Seigneur, tu es un grand Dieu et tu es un Dieu magnifique et majestueux. Et Seigneur, lorsque nous pensons à toi, lorsque nous méditons sur toi, Seigneur, nous réalisons que, Seigneur, tu nous as fait une grâce extraordinaire, que nous ne méritions rien, et que tu, Seigneur, nous as mis dans un temps où nous pouvons nous tourner vers toi, un temps où la patience est à l'œuvre, un temps où sans arrêt, Seigneur, par ton esprit, tu sollicite le cœur de tes enfants afin qu'ils se tournent vers toi et qu'ils te voient tel que tu es. Seigneur, je prie pour que ce matin nous mesurions la grandeur de ta personne et que, Seigneur, nous ayons envie de mieux te connaître. Je prie que nous puissions chacun nous rapprocher de ton trône. Seigneur, non pas pour sécuriser notre vie éternelle ou quoi que ce soit de cet ordre-là, mais parce que tu le mérites. Parce qu'à toi, Seigneur, revient toute la gloire. Que ton nom soit béni. Amen. J'aimerais que nous lisions dans Jérémie, au chapitre 9. Jérémie était un prophète, vous le savez, prophète qui pleurait. J'aime pas qu'on dise lamentation de Jérémie. C'était juste un homme qui pleurait, en fait. Il pleurait à cause de la misère de son peuple, à cause aussi du tourment que son peuple devait subir à cause de l'état de son cœur. Il pleurait parce que il y avait des invasions venant de l'étranger, parce qu'il y avait des déportations, parce que Jérusalem a vécu un siège, mais il pleurait véritablement parce qu'il réalisait que il était seul à comprendre le cœur de Dieu, et il communiquait ce cœur de Dieu à son peuple, et ce peuple n'entendait rien, ne comprenait rien. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit, les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand les calomnies. Ils se jouent les uns des autres. Ils ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'appliquent à faire le mal. Ta demeure, là c'est l'Éternel qui parle à Jérémie, il dit « Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ne les châtirai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me rangerai pas d'une pareille nation? Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte. Car elles sont brûlées, personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repaire de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprend ces paroles? Qu'il le dise, celui qui a la bouche de l'Éternel, à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit? Brûlé comme un désert où personne ne passe. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix. Ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, et qu'ils sont allés auprès des Baals, comme leur père le leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi les nations, qui n'ont connu ni eux ni leur père, et j'enverrai derrière eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez quelqu'un vers les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières, car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits. Nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens dans les places. Dit ainsi parle l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas du tout commenter en détail ce texte. Mais au verset 6, vous lisez, lorsque Dieu parle à Jérémie, il dit ta demeure, Jérémie, tu habites, ton habitation est au sein de la fausseté. C'est par fausseté que ce peuple refuse de me connaître, dit l'Éternel. Et au verset 23 et 24, verset 23 résume l'état d'esprit du peuple de Dieu à ce moment-là, tel que Dieu le voit, qui est la somme en fait de tout ce qu'il vient de dénoncer. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Si on avait juste ces versets-là, on ne comprendrait pas quelle émotion Dieu est en train de vivre, quelle horreur il est en train de subir en voyant son peuple. Mais à cause de toute la description qui en est faite avant, on comprend que que Dieu dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, il s'agit d'un péché monstrueux. Quand il dit que le fort ne se glorifie pas de sa force, c'est une autre monstruosité dans le cœur de Dieu. Et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, eh bien c'est un troisième niveau de péché que Dieu ne peut pas supporter. Et c'est pour ça qu'il va sévir. Au verset 24, Dieu explique ce qui est la norme, ce que Dieu attend de la part de ses enfants. Que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel. De savoir que je suis l'Éternel. Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc ce texte parle du délabrement spirituel, en fait, de son peuple. Un peuple qui n'est plus en état, en capacité de raisonner sainement à l'égard de Dieu. Un peuple qui a fini par oublier que tout ce qu'il possédait, c'était pas le fruit de son travail, le fruit de son activité, mais que c'était réellement un don de Dieu. C'était Dieu qui avait fait en sorte qu'ils soient là où ils sont et qu'ils possèdent ce qu'ils possèdent. Et au lieu de continuer à vivre par la foi et d'adorer Dieu de tout leur cœur, eh bien, Israël s'est appuyé sur ses propres capacités, sa propre puissance, ses propres stratégies, ses propres ressources, son propre argent, et enfin, ses propres dieux, ses propres idoles. Israël doit revoir sa façon de raisonner à propos de Dieu. S'il veut que Dieu change sa façon de raisonner à propos de son peuple. Nous, chrétiens du XXIe siècle, nous disons avoir une certaine connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Surtout nous qui croyons à la nouvelle naissance, habituellement nous plaçons notre niveau de connaissance de Dieu de façon supérieure à ceux qui ne prêchent pas la nouvelle naissance. Nous lisons la Bible, nous chantons les cantiques, nous disons des prières, nous écoutons les prédications et nous avons une opinion éclairée au sujet de Dieu. On élève nos enfants dans la crainte de Dieu, on les envoie à l'école du dimanche pour leur expliquer qui est Dieu et comment ils peuvent être sauvés. Ensuite, nos enfants grandissent. Ils font des professions de foi. Ils s'investissent dans leurs églises, prennent des responsabilités. Certains font des écoles publiques. D'autres font des études qui leur donnent des positions sociales élevées dans le monde. Et d'autres deviennent des érudits. Certains s'enrichissent, d'autres entrent en politique. Aujourd'hui, les statistiques montrent que les évangéliques sont de plus en plus nombreux et de plus en plus prospères. On compte à peu près 660 millions d'évangéliques dans le monde aujourd'hui. Il y a de plus en plus de chrétiens évangéliques et de plus en plus de présidents qui sont soit élus par les évangéliques ou qui se disent eux-mêmes chrétiens évangéliques. On a Trump qui a été élu par les évangéliques, principalement Bolsonaro au Brésil. Et on avait au Nigeria, je ne sais plus son nom, il y a quelques années. Et aujourd'hui, il y a le président de l'Éthiopie qui est un évangélique. Toutes ces choses pourraient apparaître réjouissantes. Mais je pense que nous ne devons pas être aveuglés au point de ne pas voir ce qui est de plus en plus évident. C'est que comme à l'époque de Jérémie, Dieu n'a plus réellement sa place au milieu de nous, dans l'Église. C'est pas qu'on parle plus de lui. Mais il n'a plus sa place dans le sanctuaire, dans le cœur de toutes les choses de notre vie et le cœur de l'Église. Il n'est plus le roi majestueux, le roi trois fois saint, qui mérite la gloire au-dessus de toutes les gloires. Il n'est plus indiscutablement Dieu. C'est pas quelque chose qui s'est fait en un jour. N'est-ce pas? C'est le résultat d'une usure. L'usure de la sainteté de Dieu qui est provoquée par le développement et l'élévation de l'homme, de la puissance de l'homme. Vous avez tous la tour de Babel en tête, n'est-ce pas? À mesure que l'homme s'agrandit, se grandit, Dieu diminue. Je crois que, il se passe aujourd'hui l'inverse de ce qui s'est passé lorsque Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Quand Jean-Baptiste a dit « il faut qu'il croisse ». Et que je diminue, il a diminué au point qu'on lui coupe la tête, n'est-ce pas? Et ça a laissé toute sa place à Dieu. Et aujourd'hui, on est en train de vivre l'inverse. C'est pas que les chrétiens disent il faut que Dieu diminue et que nous grandissions, pas du tout. Je pense que les intentions sont toujours de vouloir laisser Dieu à la première place. Mais il y a un développement, une élévation, une progression dans cette élévation de l'homme, ses capacités, qui fait que finalement Dieu n'a plus la place qu'il avait ou qu'il devrait avoir aujourd'hui. Et quand les hommes disent sans le dire, il faut que nous grandissions, il faut que nous développions, il faut que nous fassions des plans et des projets pour l'avenir. Il faut que nous grandissions en sagesse, il faut que nous grandissions en force, en richesse. Eh bien, la conséquence, c'est le retrait de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec la gloire de l'homme. La gloire de la puissance humaine qui fait les choses sans Dieu. C'était ce que Dieu dénonçait à l'époque de Jérémie. Et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque la connaissance de Dieu disparaît, c'est notre capacité à penser avec justesse, avec vérité, au sujet de Dieu qui s'éteint. Dans Osée, Dieu dit au travers de la bouche du prophète, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Ce n'était pas un manque de connaissance intellectuelle. Ce n'était pas que ce peuple était défaillant dans quoi que ce soit, dans ses capacités. Israël était béni. Il ne connaissait pas Dieu. Mon peuple périt à cause du manque de connaissance. Et nous dépérissons parce que nos pensées sont mal alimentées. Et en conséquence, nos raisonnements, c'est-à-dire notre façon de comprendre Dieu, notre façon d'agir en fonction de la compréhension que nous avons de Dieu, nos raisonnements sur le monde, notre raisonnement sur Dieu lui-même et notre raisonnement sur notre prochain, eh bien, tout cela devient faux parce que notre connaissance de Dieu est altérée. C'est pas pour rien que dans l'épître de Jacques, il dit au chapitre 4, verset 1, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas? C'est la question que pose Jacques. Mais d'où ça vient? Et il donne la réponse tout de suite derrière. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les passions qui combattent dans les membres combattent parce que Dieu n'est pas présent. Parce que la connaissance de Dieu n'est pas juste, n'est pas vraie, est fausse, faussée. Maintenant, il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que ailleurs les choses se passent pas aussi bien que ça devrait se passer que nous ici, nous devons suivre le même train. Et nous pouvons expérimenter la vie de l'Esprit. Parce que c'est le désir de Dieu que nous vivions par son Esprit. Si nous voulons vivre une véritable relation avec Dieu, il nous faut une véritable connaissance de Dieu. Sinon, nous allons périr. C'est ce que Jésus dit, n'est-ce pas, dans la prière qu'il fait à son Père, dans Jean 17. Au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand Jésus dit nous devons connaître Dieu, il entend que nous devons le connaître comme lui, Jésus, le connaît. Pas comme nous pensons qu'il est. Certains pensent que pour mieux connaître Dieu, il faut augmenter notre somme théologique, notre connaissance théologique. D'autres ont jugé qu'il fallait plus d'émotion ou plus de dynamique dans les cultes. Et certains encore ont dit, mais non, il faut créer des endroits plus intimes, plus conviviaux, pour que Dieu soit plus facile à connaître. Peut-être que certaines de ces choses sont bonnes, mais la solution n'est pas dans notre tête. La solution, elle est dans la tête de Dieu. Le Judas, le disciple que Jésus avait appelé comme tous les autres disciples, avait une fausse conception de Dieu. N'est-ce pas? Parce que le Messie qu'il concevait dans ses pensées n'était pas le même que celui qu'il côtoyait tous les jours. N'est-ce pas? Il était peut-être déçu de qui était Jésus finalement, et c'est à cause de ça qu'il a pu le trahir. Parce que trahir quelqu'un qui vous déçoit, ben, en réalité, c'est pas vraiment de la trahison, puisqu'il me déçoit. Même quand il s'agit de Jésus. On ne dit pas ouvertement que Jésus nous déçoit. Pourtant, n'est-ce pas, lorsque nous ne voyons plus Dieu tel qu'il est, eh bien, nous aussi, nous en arrivons à trahir Jésus. Lorsque nous ne voyons plus Dieu tel qu'il est réellement, c'est la qualité de notre relation avec lui qui en souffre. Et nous nous retrouvons comme Judas à le trahir en nous laissant aller à toutes sortes d'infidélités à son égard. Quand nous observons cette prospérité du monde évangélique et de certaines des missions évangéliques, nous pourrions croire, n'est-ce pas, que nous sommes bénis. Mais je crois que derrière ce que nous prenons comme une bénédiction, il se cache une tragédie spirituelle terrible. La prospérité affichée de l'Église cache en réalité un profond détachement vis-à-vis de Dieu. L'Église et la mission moderne n'a pas besoin de Dieu pour fonctionner. Je peux vous le garantir. Il y a l'argent, il y a les ressources intellectuelles, il y a les modes de communication, il y a l'organisation, il y a des systèmes qu'on met en place, il y a toutes les associations parallèles qui prennent en charge des gens qui ont des problèmes. On n'a pas besoin de Dieu. Ça peut fonctionner sans Dieu. C'est pas à force que l'homme s'élève dans la pratique de sa propre religion, celle qu'il conçoit comme étant juste. Et je le répète, Dieu est toujours présent. Dieu fait partie de l'objet du culte. Toujours. Mais il n'a plus la place centrale. Il n'est plus sur le trône. Il n'est plus le Dieu majestueux, le Dieu trois fois saint. Il est présent et c'est tout. Il fait partie des éléments du culte. L'homme pratique sa propre religion, comme c'était fait à l'époque de Jérémie. Ils adoraient Dieu, parce que Josias, le roi, avait dit qu'il fallait adorer Dieu, que c'était ça qui était bien de faire. Mais dans leur cœur, ils n'étaient pas prêts à adorer Dieu véritablement. Ils adoraient aussi d'autres dieux. Ils avaient leurs propres idoles qu'ils fabriquaient. Et nous avons nos propres idoles, celles que nous fabriquons avec nos pensées. Nos idoles, souvent qui nous ressemblent. Souvent, Dieu nous ressemble. C'est pas long à découvrir lorsque vous parlez à quelqu'un. Il va vous dire, ah non, non, Dieu, il est comme ça. Et si vous grattez un peu, vous apercevez que Dieu, il est juste comme eux, ils sont. Dieu n'est pas comme nous sommes. Nous devons être comme Dieu. C'est pas la même chose. À force que l'homme s'élève, la connaissance de Dieu décroît. De sorte qu'il n'y a plus de relation d'intimité avec Dieu. Dieu se retire parce qu'il ne veut pas partager son trône avec d'autres. Et cet autre, très souvent, c'est le moi. Je dis souvent ça, on peut dire vouloir mettre Dieu à la première place. N'est-ce pas, quand on dit « je mets Dieu à la première place », en fait, on se place en tant qu'organisateur, comme entraîneur. C'est l'entraîneur qui donne les places dans une équipe de foot, n'est-ce pas? C'est l'entraîneur qui donne les places. Toi, tu as la première place, toi, tu as la deuxième, la troisième. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Dieu doit avoir toute la place. Dieu doit monter sur le trône de notre vie. On n'a pas à lui dire quelle place il a, ni la première, ni la deuxième. Il a toute la place. Ou il n'a pas de place, parce qu'il ne se contentera pas d'une partie de notre vie. Alors tous les rites sont là, bien en place. Mais il semble donc que le christianisme moderne, et nous sommes inclus dans ce christianisme moderne, ne soit plus capable de produire des chrétiens pleinement dépendants de Dieu. L'adoration est triste. Alors vous me direz, mais non, je peux te dire, va dans certaines églises, tu vas voir, c'est pas triste, c'est dynamique. L'adoration est triste. Vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez. La réalité, c'est la réalité du cœur qui prime. C'est pas l'état dans lequel vous êtes pendant le culte parce qu'il y a de la batterie et de l'exaltation qui compte. C'est l'état de votre cœur lorsque vous sortez. L'adoration est triste. Et les cœurs semblent incapables d'exprimer des mots d'amour en direction de Dieu. Seigneur Jésus, je t'aime. Oh mon Dieu, tu es mon tout. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Tu es ma force. Nous prenons pour acquis que Dieu est là, qu'il est présent. C'est ce que nous disons dans tous nos cultes, n'est-ce pas? C'est parfois, il y a cette question qui est en suspens, mais est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que nous adorons Dieu ou une fabrication intellectuelle de Dieu? Parce que Dieu n'est pas compréhensible par l'esprit humain. Dieu n'est pas connaissable par la compréhension humaine. Je répète ce que disait Jésus. La vie éternelle, c'est que nous connaissions Dieu. Il n'était pas en train de dire que nous allons le connaître avec notre pensée, mais que nous ne pourrions le connaître qu'avec le cœur, avec le Saint-Esprit. C'était la seule façon de connaître Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Si ça ne t'est pas donné, tu ne peux pas me connaître. Tu dis, nous savons qui, maître, nous savons. Nous savons qui tu es. Et Jésus dit, non, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas. Parce qu'il faut naître de nouveau. Quand Moïse a demandé à Dieu qui il était, enfin, qui est-ce que je... Quand je devrais parler au peuple de ta part, je leur dis, t'es qui? En gros, c'est ça qu'il a dit à Dieu, n'est-ce pas? Dieu lui dit, tu leur diras, je suis celui qui suis. Celui qui est vous dit ceci. Et avant ça, il s'est révélé sous le nom de l'Éternel. Et au patriarche Abraham, Isaac et Jacob, il s'est révélé comme étant le Tout-Puissant. Et ailleurs, il est l'Éternel des armées. Et encore, il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et je pourrais vous énumérer tous les noms de Dieu. Mais cela ne le rendra pas plus vivant. Ça ne vous permettra pas de mieux le comprendre. Je pourrais vous citer tous les attributs de Dieu, mais ça ne vous le rendra pas plus vivant. Certes, nous avons besoin d'une conception juste de Dieu. Mais il faut que ce que nous savons de Dieu, ce soit quelque chose qui soit vivifiant. Une connaissance de Dieu que Jésus possédait en lui et qu'il veut nous transmettre. Parce que c'est un esprit vivifiant. Jésus est un esprit vivifiant. Dans Jean 17, 26, Jésus dit « Je leur ai fait connaître ton nom. » N'est-ce pas ? C'est pas un nom qui vous fait vivre. Mais connaître par l'Esprit de Dieu. Le nom de Dieu, eh bien, ça rend Dieu vivant dans notre cœur. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. La révélation de Dieu au patriarche était partielle, mais Dieu s'est révélé à nous pleinement en Jésus-Christ. Comment est-ce que nous pouvons connaître Dieu? Il y a trois façons de connaître Dieu. La nature, la parole de Dieu, et la personne de Jésus-Christ. Alors quand je dis ça, j'ai beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes parce qu'ils disent « Non, non, on ne peut pas connaître Dieu dans la nature. » Et je ne comprends pas pourquoi, parce que toute la parole de Dieu en parle, et notamment là, juste David, dans le psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Nous savons qui est Dieu au travers de la parole de Dieu, de la Bible, du témoignage écrit que nous avons, que Dieu a voulu que nous laisser, afin aussi que nous puissions le connaître. Mais surtout, nous avons la personne de Jésus-Christ, qui par son incarnation a rendu possible aux hommes de connaître Dieu, de se rapprocher de Dieu, de le toucher, de communiquer avec lui, d'être en relation intime avec lui. Il faut bien observer les paroles de Jésus. Il faut bien lire les paroles de Jésus, parce que ce sont les paroles de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de Jésus. N'est-ce pas? Quand il dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» C'est pas juste un effet de discours. C'est Dieu qui parle à Pierre, ou qui parle de ce qui est en train de se passer. Avec Pierre, comment Satan s'est saisi de Pierre pour essayer de faire en sorte que Jésus n'arrive pas à la croix. Arrière de moi, Satan. Est-ce que Dieu doit dire ça parfois de nous? Est-ce que vous autorisez Dieu à le dire? Si vous n'autorisez pas Dieu à dire « Arrière de moi, Satan », alors qu'il a tout à fait les raisons de le dire, votre conception de Dieu est fausse. Et vous raisonnez mal au sujet de Dieu. Parce que le résultat de ça, ça devrait être la repentance et le changement de direction. Dieu a le droit de nous dire « Arrière de moi, Satan », lorsque nous nous sommes laissés avoir par Satan. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Dans la tradition hébraïque, connaître a une connotation d'intimité sexuelle. Il y a une notion de rapprochement extrême dans le terme connaître. Et Dieu veut que notre relation avec lui soit une relation d'amour vibrante et enflammée. Si vous voulez savoir à quel point Dieu souhaite avoir ce type de relation avec nous, eh bien, je vous invite à lire le livre des Cantiques. Je vais juste vous lire un extrait. Au chapitre 7 et au verset 11. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs. Demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Est-ce que nous voulons véritablement avoir cette relation avec Dieu ? Lorsque notre relation avec Dieu trouve sa dimension normale, alors ce sont des tonnes d'inquiétudes qui disparaissent de nos vies. N'est-ce pas ? Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu comme ça, avec cette intimité ? Comment est-ce que nous pouvons dire même que nous connaissons Dieu qui est le Créateur, qui est celui qui est présent de toute éternité, qui n'a pas été créé par qui que ce soit, ce Dieu qui remplit l'univers et qui peut se réduire à notre cœur. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous connaissons Dieu alors que nous passons notre temps à nous inquiéter ? Et à vouloir faire les choses avec nos propres forces, avec notre propre sagesse, avec notre propre richesse. Un petit enfant, à côté de son père, n'a peur de rien. Il ne s'inquiète de rien. C'est ce que Dieu attend de nous, en fait. Que nous le connaissions à ce point-là. Qu'à côté de lui, nous n'avons pas, nous ne risquons rien. Nous ne sommes en danger de rien. Qu'à côté de lui, eh bien, nous pouvons recevoir tout ce dont nous avons besoin. N'est-ce pas ? Il y a des vérités, j'en citerai juste quelques-unes. Le juste vivra par la foi. On se pose la question, n'est-ce pas, qu'est-ce que la foi ? Mais la foi vient lorsqu'on se rapproche de Dieu. Si on est éloigné de Dieu, on ne peut pas avoir la foi, ce n'est pas possible. La foi en quoi ? En une image ? En une silhouette ? Moi, si je vois une silhouette, je n'ai pas foi en une silhouette. Mais si j'ai la personne la plus puissante du monde à mes côtés, oui, j'ai la foi. J'ai la foi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous sont données par-dessus. N'est-ce pas ? Toutes ces choses prennent du sens lorsque nous nous rapprochons de Dieu, lorsque nous connaissons Dieu comme Jésus nous a montré Dieu. La seule chose qui nous enlève nos inquiétudes, c'est la connaissance réelle de Dieu. Pas le fait que ce soit marqué dans la Bible, ça n'enlève pas nos inquiétudes. On le voit tout le temps. Tous les chrétiens lisent la Bible et la plupart sont inquiets. Mais ça nous renseigne. De le lire, ça nous renseigne sur le fait que c'est possible de vivre une vie sans inquiétude du lendemain. De nous rapprocher de Dieu pour qu'il rende cela vrai dans notre quotidien. Frères et sœurs, si nous pensons Dieu tel que nous imaginons qu'il est, plutôt que de nous rapprocher de lui pour qu'il nous dise lui-même comment il est, eh bien nous allons à l'échec. Et nous allons vouloir bâtir un Dieu qui est puissant, nous allons vouloir bâtir un Dieu qui est sage, un Dieu qui est riche, un Dieu qui est fort. Mais finalement, nous allons le bâtir à notre image. Et Dieu veut que nous soyons, nous, à son image. Nous avons été créés à son image. Et cette image, il veut la parfaire par l'Esprit de Dieu après la chute. Dans Jacques encore, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Je vais m'arrêter là. J'aimerais qu'on prenne du temps dans la prière. Et si le Seigneur vous a parlé, que vous puissiez soit dans l'intimité de votre cœur ou à voix haute, prier et demander à Dieu de le connaître tel qu'il est réellement.